La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
La tête.
Notre club cet après-midi, un champion de mémoire, tout sur le sexe féminin et les découvertes liées au hasard. Et je vous présente mes invités dans un instant. Catherine de Copé, bonjour.
Bonjour.
À la Une de la Science, aujourd'hui on parlera avec vous d'une étude sur la restriction calorique.
Manger moins pour vieillir mieux, c'est ainsi qu'on pourrait résumer le principal résultat d'une étude menée sur des lémuriens de Madagascar. On en parle dans un instant avec la biologiste Fabienne Ojard du CNRS.
Et c'est Étienne Bertin qui réalise aujourd'hui ce club, préparé par Anna Massardier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue les invités du club cet après-midi, Sébastien Martinez et Raphaël Chevrier pour la partie française. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis Nina Brockmann et Hélène Stockendal pour la Norvège. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue à Paris. Vous terminez vos études de médecine et vous êtes en France à l'occasion de la sortie de votre livre Les joies d'en bas, sous-titré Tout sur le sexe féminin. Il paraît chez Actes Sud. C'est un succès mondial, déjà traduit dans une trentaine de langues. Est-ce que, Nina Brockmann, la méconnaissance du sexe féminin est un phénomène international?
Yes, this is definitely an international phenomenon.
Phénomène international, oui, à n'en pas douter. On ne pensait pas que ce serait le cas. Mais à la sortie du livre en Norvège, on s'est aperçu que le succès devenait mondial. Donc nous avons fait le tour du monde et on parle de sexe féminin à des femmes et il semblerait que les femmes se posent les mêmes questions où qu'elles se trouvent.
Hélène Stockendal, quel serait l'élément finalement le plus méconnu du corps féminin?
I would say the size of the clitoris.
Je dirais la taille du clitoris.
It's really big. It's
clitoris like an iceberg, est très important. C'est un petit peu comme un iceberg. On en parlera plus tard, si
Absolument.
Vous voulez.
Absolument. On fera donc un tour de votre livre dans quelques minutes qui fait état des derniers résultats de la recherche concernant donc le sexe féminin. Raphaël Chevrier, vous êtes vous docteur en physique et chroniqueur pour la presse scientifique et vous publiez ce livre, Ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas à la librairie Vuibert. Et ça tombe bien parce que dans les sujets que vous avez retenus, il y a l'histoire du Viagra qui fête pile ses 20 ans, la petite pilule bleue, c'est vraiment un hasard au départ?
Ah oui, c'est tout à fait un hasard. Au début, les chercheurs, on est à la fin des années 80, et les chercheurs souhaitent trouver un traitement pour traiter l'hypertension et en particulier les angines de poitrine. Et évidemment, les effets secondaires sont tout à fait différents de ceux attendus.
Voilà, donc ça démarre comme ça et vous allez nous raconter la suite de la saga et bien d'autres exemples autour de ce qu'on appelle la sérendipité.
Exactement.
Et puis Sébastien Martinez, vous êtes vice-champion de France de mémoire 2017. Votre guide, La mémoire est un jeu, paraît aux éditions Premier Parallèle. Cette mémoire que vous entraînez comme un sportif de haut niveau toujours?
Ah oui, complètement. C'est vraiment, il y a les mêmes ingrédients qu'un sportif. Il faut travailler la technique, il faut travailler l'endurance, et aussi il y a une discipline au quotidien pour pouvoir progresser. Mmh. Et c'est vraiment très très sympa et très marrant.
Voilà. Et là, vous donnez toutes les clés, tous les détails dans ce livre qui paraît. Et on se retrouve tous ensemble dans un instant. L'émission étant enregistrée aujourd'hui, on ne pourra pas recevoir, hélas, vos messages comme d'habitude. Et à la Une de la Science aujourd'hui, manger moins pour vivre mieux, c'est ce que démontre en tout cas une récente étude publiée dans Communication Biology et réalisée par des chercheurs du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle autour des lémuriens. Étude importante sortie hier puisque jusqu'ici l'effet de la restriction calorique sur la longévité n'avait pas été démontré chez les primates. Catherine de Copé.
Et pour en parler avec nous dans ce studio, l'une des signataires de cette étude, biologiste et directrice de recherche au CNRS, Fabienne Ojard, bonjour.
Bonjour.
Alors vos travaux portent principalement sur la question du vieillissement. Et dans cette étude, vous vous êtes intéressé au microcèbe, qui est donc une espèce de lémurien qu'on trouve principalement à Madagascar. Vous les avez observés pendant une dizaine d'années en en mettant certains au régime. On peut résumer les choses comme cela?
Oui, oui, tout à fait. Nous avons voulu tester l'effet de la restriction calorique chronique, c'est-à-dire manger moins tous les jours sur les paramètres de vieillissement et la longévité chez ce primate.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'expérience? Vous avez pris deux groupes d'individus. Alors, il faut savoir que vous avez une colonie dans votre laboratoire à Brunois de cette espèce de microcèbe.
Oui, à Brunois, nous avons une colonie de longue date. On maîtrise bien la biologie de cet animal.
À quoi il ressemble d'abord ce petit lémurien? lémurien pour le décrire?
Oui, alors c'est un petit singe qui fait à peu près 100 grammes, hein, donc ça tient dans la main. Il est gris-brun, c'est un animal nocturne, il n'a pas des couleurs très, très vives, et il a une longue queue, il marche à quatre pattes.
Alors vous avez pris deux groupes d'individus, certains au régime et certains qui mangeaient normalement. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait le processus de l'expérience?
Alors après avoir pu valider la ration normale pour un microceb et valider aussi les paramètres qu'on a voulu suivre tout au long de la vie des animaux, on a pris des animaux qui avaient 3 ans, donc ils étaient à l'âge adulte. On n'a pas voulu tester ça sur des animaux qui étaient en croissance. Mmh. Et c'est un animal qui vit une dizaine d'années, donc on avait la possibilité, hein, sur une vie chercheur au moins,
oui,
de
ça.
Pouvoir tester l'effet et aller jusqu'au bout de cette expérience.
Ça, c'est le gros avantage, évidemment, c'est qu'on peut étudier le phénomène de la naissance jusqu'à la mort d'un individu, ce qu'on ne peut pas faire quasiment chez l'homme. Hein.
Alors, ni chez l'homme, ni chez des grands primates comme des babouins ou des chimpanzés qui vivent 40 ou 50 ans.
Alors en laboratoire, Fabienne Ojard, vous reproduisez dans la mesure du possible l'alimentation naturelle de ces lémuriens avec des pommes, des bananes, et vous m'aviez même parlé de mélange protéique à base d'œufs et de fromage blanc. Quel c'est le résultat de cette expérience? Le résultat le plus important, c'est la longévité qui progresse chez les animaux au régime?
Alors, on a pu démontrer que les animaux qui étaient au régime vivaient plus longtemps que les animaux qui étaient soumis à une nourriture normale, enfin une ration normale. Mmh. Et ça a pu se voir dès ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire l'âge où la moitié du groupe est décédée. Et on a encore donc la moitié vivante. Et cet âge a été très reculé, c'est-à-dire que les animaux contrôle ont vécu, avaient cette demi-vie à 6 ans, et les animaux qui étaient au régime ont atteint cette demi-vie à 9 ans.
Donc on a presque doublé en fait l'augmentation de, la durée de vie, l'espérance de vie avec ce régime.
Alors cette durée de vie a été augmentée d'une fois et demie. Et en plus, on a eu le décès de tous les animaux qui étaient sous ration normale, qui sont tous morts de leur belle mort, alors qu'on avait encore un tiers du groupe au régime qui était encore vivant.
Ouais. Et sur la fin de vie, alors vous disiez à peu près c'est une dizaine d'années la longévité normale d'un lémurien. Et
oui,
donc ceux qui ont fait le régime strict ont vécu combien de temps?
Eh ben, donc au moment de notre publication, on a encore donc un tiers des animaux qui sont vivants. Donc
ah oui,
ils ont 12
vivre,
ans,
voilà.
Ils continuent à vivre, alors que le groupe entier a atteint sa durée de vie maximale.
Alors l'autre résultat important et complémentaire, c'est que les microcèbes légèrement privés de nourriture vieillissent aussi en meilleure santé. Alors comment vous avez pu l'observer, Fabienne Ojard?
Alors tout à fait, ça c'est un des résultats également très positifs de notre étude. Nous avons suivi des paramètres qui sont liés au vieillissement, comme la régulation du glucose, hein, c'est donc le sucre dans le sang, qui est un signe de prédiabète. On observe ça chez les lémuriens, comme on peut l'observer chez l'homme. Et ces paramètres ont été maintenus à un stade d'adulte beaucoup plus longtemps chez les individus au régime.
Concrètement, le régime consistait en quoi? Alors, vous avez baissé de quelle proportion en fait la nourriture de ces lémuriens?
Alors, on a baissé de 30% la ration des animaux.
Ah oui, quand même.
Mais ce qui est important, c'est que on a maintenu à l'équilibre tous les nutriments. C'est-à-dire que c'était une restriction qui était purement quantitative, mais qui n'agissait pas sur un nutriment ou un autre.
Alors les animaux au régime ont développé aussi moins de cancers et pour autant ont gardé toutes leurs capacités motrices, cognitives. Donc finalement ils sont morts assez jeunes, finalement physiquement si on peut le dire.
Alors c'est vrai, on était contents de voir que ces paramètres cognitifs et moteurs étaient préservés, ce qui nous permettait d'être rassurés sur les performances des animaux, l'état de santé, et de pouvoir dire que le nombre de calories qu'ils ingéraient était suffisant pour leur bon fonctionnement.
Évidemment, on a envie de vous demander, devant tel résultat, s'ils peuvent se transposer à d'autres espèces ou à d'autres animaux, l'homme notamment. Et comment inférer de ces résultats pour l'homme aujourd'hui?
Alors, le fait de démontrer cela chez un primate, ça nous rapproche de la physiologie de l'homme. Bon, il y a des études qui ont été faites sur des macaques aux États-Unis, mais qui n'étaient pas allées jusqu'à la longévité maximale. Donc maintenant, on a de meilleures indications sur le fait que cette restriction fonctionne chez les primates.
Ça, c'est la première fois qu'on obtient ce résultat, justement.
Oui, d'arriver jusqu'au bout de l'étude et d'atteindre la longévité maximale et de pouvoir donc attester de cette été fait, c'est la première fois chez un primate.
Et pour le passage à l'homme alors ?
Alors pour le passage à l'homme, alors bien évidemment c'est des choses qu'il faut prendre avec précaution, hein, mais il y a des choses à voir au niveau de l'alimentation. On peut dire que l'alimentation joue un rôle dans le processus de vieillissement et il est important de prendre cela en considération.
Pour autant, c'est pas la solution miracle.
Alors, ce n'est pas la solution miracle, ça, je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent dans le processus de vieillissement chez l'homme, dans la vie de tous les jours, que ce soit le stress et la pollution. Et donc, on ne peut pas juste se dire qu'agir sur un paramètre va être la solution.
C'est même un sujet très controversé en science, hein, cette affaire de restriction calorique, hein, parce que sur l'homme, en tous les cas, personne n'est d'accord pour dire qu'on pourrait obtenir les mêmes résultats que chez le primate, par exemple.
Alors, ce qu'il y a, mais même chez le primate, ça a longtemps été débattu, parce que ça, il y a un compromis qui se fait, c'est-à-dire que pour pouvoir s'adapter à une restriction calorique et vivre plus longtemps, l'organisme fait une sorte de compromis, et on peut toujours penser qu'il pourrait y avoir des effets néfastes, mais l'effet global est positif.
Bon, on va se mettre au régime, Catherine.
On va essayer.
Ça va nous faire du bien. On va toujours. Faut faire attention, hein, cela dit. Ça, c'est peut-être une recommandation qu'on peut faire. C'est que, évidemment, ces messages-là, ils sont faits sous surveillance avec des scientifiques et il faut éviter, évidemment, chez soi, de le faire sans être tout à fait contrôlé parce qu'on ne connaît pas, évidemment, les effets de ces régimes stricts, hein, quand même.
Absolument, absolument. Il faut être suivi et peut-être le faire sur des courtes durées, ça peut être bénéfique, mais bien évidemment, avec précaution.
Et il faut poursuivre les recherches pour en savoir plus sur l'homme. En tout cas, résultat très intéressant là sur le primate, résultat que vous venez de publier dans cette revue qui s'appelle...
Communications Biology.
Merci beaucoup Catherine Decoppet, Fabienne Ojard, merci d'être passée aujourd'hui à la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un implant pour lutter contre la rétinopathie pigmentaire. C'est la solution trouvée par des chercheurs californiens. La rétinopathie pigmentaire, c'est une maladie génétique dégénérative de la rétine et des photorécepteurs de l'œil qui entraîne une perte progressive de la vision chez les personnes de plus de 50 ans. Pour développer cet implant, les chercheurs se sont servis de cellules souches d'épithélium pigmentaire, la partie qui dysfonctionne dans cette pathologie. Actuellement encore en essai, l'implant pourrait retarder la progression de la maladie, voire restaurer la vision. Les tests cliniques sont à ce stade encourageant puisque 4 des 5 patients qui ont testé l'implant l'ont toléré avec succès. Le centre de notre galaxie pourrait contenir des milliers de trous noirs. Des chercheurs américains affirment cette semaine avoir mis au jour la présence d'une douzaine de trous noirs stellaires qui se forment à la fin du cycle de vie d'une étoile. Jusqu'ici, ce n'était qu'une hypothèse, mais les chercheurs ont capté les signaux qui pourraient correspondre à ce type d'objet et ce grâce à la captation de rayons X très intenses émis lorsqu'un trou noir côtoie une étoile géante en fin de vie. Pour les chercheurs, les trous noirs stellaires détectés ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Et si leur hypothèse se confirme, ce ne sont pas 12, mais des milliers de trous noirs stellaires qui se nicheraient au centre de notre galaxie. Et puis les baleines boréales seraient de véritables compositeurs-interprètes. Selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Washington, les individus mâles de cette espèce qu'on trouve au large du Spitzberg ont créé près de 200 chansons différentes en l'espace de 3 ans. Caractérisées par un large crâne brise-glace et une tache blanche sur le menton, cette baleine de 100 tonnes interpelle les chercheurs par l'originalité de son chant et de sa virtuosité. Chassée depuis le 16e siècle, l'espèce est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Allez, le club dans un instant. sont cachés. C'était Petit Fantôme à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Joue une carte de potion, tu vas t'en tirer.
Mais laquelle?
Aucune importance, tu ne pourras jamais gagner.
Oh.
Oh, toi, ça va, gâche pas la partie.
Comment il peut gâcher la partie?
Compte tenu des cartes déjà jouées, Penny n'a forcément que les potions de nécromancier qui ne sont utiles que contre les wraiths et les créatures diurnes. Mais il n'y en a plus parce qu'elles ont toutes été tirées. En effet, celles qui restent dans la pioche sont 4 armes de feu, un troll, 2 ogres, ainsi que le joyau d'Osiris.
Et voilà, c'est foutu.
Ben ça alors, c'est incroyable.
Par rapport à ton niveau, c'est vrai, c'est incroyable.
Sheldon a une formidable mémoire photographique.
Non, photographique n'est pas le terme qui convient. J'ai une mémoire eidétique, je te l'ai dit 100 fois. La dernière fois, c'était lors du déjeuner qui a eu lieu le 7 mai. Tu te plaignais que la dinde était sèche.
Voilà, c'est ça de vivre avec des gens qui ont une très très bonne mémoire. Et dans ce club, cet après-midi, nous allons entre autres parler justement de ce sujet. On évoquera également le sexe féminin et les découvertes liées au hasard. Mais on commence avec vous, Sébastien Martinez, puisque vous êtes vice-champion de France de mémoire 2017. Et puis cet ouvrage qui paraît, La mémoire est un jeu, ça sort aux éditions Premier Parallèle. Racontez-nous d'abord comment vous êtes aperçu qu'un jour vous aviez une mémoire de compétition quasiment.
Alors c'est venu de l'inverse. Et à la base, je me plaignais d'apprendre par, enfin j'aimais pas apprendre par cœur, et surtout en français, en histoire, dans les langues. Mm-hmm. Et comme j'avais des facilités en sciences, je me suis dit mais il doit y avoir des méthodes quand même, ça doit. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé qu'il existait des champions du monde de mémorisation. Je me suis renseigné un peu sur les méthodes, et donc j'ai testé un premier exercice, mémoriser 20 mots sans technique, j'en mémorisais 5, et juste en appliquant une méthode, j'ai fait 20 sur 20. Donc là, ça a été vraiment le premier déclic. Je me suis dit, ah ouais, je suis aussi capable d'apprendre par cœur. Mm-hmm. Donc je vais approfondir ça et je vais le transmettre.
Ah oui, donc vous aviez pas une mémoire spectaculaire?
Ah non, pas du tout, hein? Pas du tout. Et même, j'aimais absolument pas apprendre par cœur. C'était quelque chose que je mets pas.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a produit comme effet, du coup, en apprenant ces méthodes? Ça a complètement changé même votre scolarité? Enfin, il y a eu des impacts très concrets ensuite?
Ça a changé complètement ma manière d'apprendre l'apprentissage. Alors, c'était sur la fin de ma scolarité. Donc, ça a pas non plus révolutionné ma scolarité, mais ça a révolutionné mon état d'esprit. Mm-hmm. Je me suis dit à l'époque, mais pourquoi j'ai pas appris ça en maternelle? Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu cette passion et cet enthousiasme de commencer à le transmettre. J'ai commencé à le transmettre à des amis. Donc, j'ai vu que ça a fonctionné. Oui. Et très vite, j'ai commencé à le transmettre aussi à des étudiants et ça a pris de l'ampleur. Maintenant, j'accompagne beaucoup des jeunes en médecine, en droit, ouais. et je transfère ça aussi. Il y a des profs aussi dans les entreprises.
Ouais, justement ça, puisque vous enseignez aussi à des médecins, on en a deux avec nous, Nina Brockmann et Hélène Stockendal. Est-ce que vous intéressez-vous, dans le cadre de vos études de médecine en Norvège, à ce thème de la mémoire? C'est quelque chose que vous étudiez ou pas en tant que médecin? Nina Brockmann.
Yes, I wish I had your memory.
Ah, j'aimerais bien avoir la mémoire de votre invité. Mais je n'ai jamais essayé ces techniques. Mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant. C'est très utile d'avoir une bonne mémoire.
Oui. Eh bien, on va vous les enseigner. Hélène, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous, en tant que médecin également?
I have actually tried a few memory techniques.
En réalité, moi, j'ai essayé quelques techniques de mémorisation. Les résultats ont été assez bons. J'arrive à me situer dans l'espace. J'utilise cette technique qui consiste à essayer de mémoriser la localisation dans l'espace. Ça marche bien.
Oui. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé d'utiliser ça alors?
Well, there is a man in Norway who is famous for his good memory, and he's writing books about learning.
Il y a en Norvège un personnage célèbre pour sa mémoire. Il relate ses capacités de mémoire dans différents domaines, et pour l'anatomie. Pour l'apprentissage de l'anatomie, c'est particulièrement utile, la localisation dans l'espace.
Ben voilà, nous on a notre champion français qui est ici, qui a plein de choses à nous dire, c'est d'ailleurs l'objet de son livre. C'est quoi finalement, Sébastien Martinez, la clé pour essayer de trouver des astuces pour la mémoire? C'est d'abord d'en faire un jeu, quelque chose d'agréable et de ludique?
Alors le jeu c'est important parce que c'est la première étape pour mémoriser, c'est-à-dire être attentif. Et lorsqu'on joue, on est 100% attentif à l'information, en tout cas à l'activité dans laquelle on est.
Ouais.
Et en fait, pour avoir une bonne mémoire... Alors, c'est dû aussi à ce premier livre aussi que j'ai sorti, où j'ai parlé de toutes ces stratégies de mémorisation. Mmh. Et souvent les personnes me disaient, mais comment je fais pour aller plus loin? Les gens arrivaient pas forcément à imaginer, parce que mémoriser, c'est créer du lien, et pour créer du lien, des fois il faut s'autoriser à sortir du lien rationnel, donc avoir plutôt des liens loufoques et irrationnels. Mmh. Et donc là, l'idée, c'est de voir quels sont les éléments essentiels pour bien pratiquer ces stratégies. Donc là, j'en ai identifié 4 de facultés. La première, c'est l'attention. La seconde, c'est être capable d'être de percevoir ses perceptions, donc les cinq sens. Après, il y a l'imagination. Et enfin, pour finir, c'est être capable de s'auto-observer comme un sportif pour progresser et apprendre de ses erreurs.
Est-ce que c'est la méthode Koala que vous résumez en ces quelques mots?
Ah oui, alors la méthode Koala, je l'ai déclinée par rapport au visage et au nom.
Ouais.
C'est ça, c'est... Alors, le koala avec un C en commence, donc c'est un acronyme pour rappeler de toutes les étapes.
Et
alors,
ouais.
La première étape, c'est un C, il faut être concentré, il faut avoir envie de retenir une information. Deuxième étape, donc O, il faut observer. Alors, si on n'observe pas des détails du visage, n'importe quoi, on va pas s'en rappeler. Une fois qu'on a observé, on fait pareil avec, on associe le prénom à quelque chose. Donc, j'aimais par exemple Thomas, j'ai un ami qui s'appelle Thomas, donc j'imagine cet ami, où on a tous, on va dire, des prénoms comme ça, on a des associations. L'étape d'après, c'est après donc koala, donc on a le L, il faut créer un lien entre les deux informations. Et pour finir, il faut ancrer, donc il faut consolider au cours du temps.
Mais alors, c'est pas si simple que ça, moi, je trouve, quand même. Parce que pour mettre au point ces exercices de mémoire, on voit qu'il faut faire appel à d'autres moyens qui sont très, très nombreux. On a l'impression que c'est justement un monde tellement vaste que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout.
En fait, ce qui est vaste, c'est que moi, ce que j'aime bien regarder, observer, c'est quels sont les fonctionnements naturels.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on fait déjà.
Ouais.
Et moi, j'aime bien me définir un peu, je suis un peu un samouraï de la décomposition.
Ah.
En fait, ce que je fais, c'est juste que je décompose les étapes que j'utilise et que j'observe que les personnes utilisent. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent, enfin, des fois, ça vous arrive, je dis, tiens, il me fait penser à ma cousine, à une tante. Et boum, en fait, c'est l'observation qui va déclencher quelque chose. Et pareil avec le prénom. Quand la personne, par exemple, porte le nom de Stéphanie, c'est ma sœur, instantanément, je le retiens. Parce que, vous voyez, j'ai une association et on a tous ce genre d'association.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est des fonctionnements naturels.
Mmh. Raphaël Chevrier.
Oui, non, mais moi, je suis très impressionné par toutes ces méthodes, mais est-ce que c'est qu'une question de méthode ou est-ce qu'il y a aussi besoin d'une forme d'hygiène de vie qui peut aider à la mémorisation?
Ah, est-ce qu'il faut la restriction alimentaire, tiens, justement,
comme du sommeil, j'imagine, pour être quand même concentré et alerte?
Ouais.
Hein. Comme toute méthode, ça, pour exceller, après, il faut l'entraînement. Et ça, c'est pas magique, ça, il faut le préciser.
Ouais.
C'est une fois qu'on a la méthodologie, il faut s'entraîner, donc il y a une discipline. Et après, c'est qu'une question de curseur et d'ambition, d'objectif. En fonction de votre objectif, vous allez vous entraîner et placer le curseur, vous avez envie. Quoi.
Est-ce que vous arrivez maintenant à faire enseigner ces méthodes avec des résultats observables?
Ah oui, clairement. Alors, les premiers résultats observables, c'est la motivation. Parce que les personnes, au début, a priori, se disent, je suis pas capable de faire ça, par exemple, de mémoriser du vocabulaire dans une langue, retenir des visages, apprendre de l'anatomie. Et lorsqu'on se pose et qu'on applique les méthodologies, il y a un effet un peu waouh, dit ah oui, en fait, j'y arrive.
Mm-hmm.
Donc ça révèle un peu le potentiel des gens. Donc ça, c'est la première étape, c'est dire ok, on y arrive. Et après, les effets les plus intéressants, c'est lorsqu'il y a une pratique, une discipline sur le long terme. Donc là, je commence à en avoir avec certains élèves qui depuis plusieurs années m'accompagnent.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai des effets, ils me bluffent, je suis impressionné par ce qu'ils sont capables de faire.
Ouais. Vous avez suivi une classe, c'est ça, à Limoges aussi? Vous avez fait une expérience?
Alors à Limoges, on a eu la chance, donc avec le rectorat de Limoges en partenariat et avec aussi une association Limousine des Challenges sur place, on a mis en place un challenge. Donc on a fait une saison. Donc le premier challenge le 30 janvier, c'était à Limoges. Donc journée, matinée, découverte des stratégies. L'après-midi, deux challenges. Un challenge très mémoire très classique, on va dire entraînement, et un autre challenge collaboratif, mémoriser un maximum de capital du monde. Et donc les jeunes étaient hyper enthousiastes. Il y avait aussi les professeurs. Donc il y en avait 80 jeunes. Et là, vu le succès, donc là on va clôturer la saison le 12 juin à Limoges avec pareil les mêmes jeunes plus d'autres et voir leur progression et jusqu'où ils sont allés.
Ça a étonné les professeurs eux-mêmes?
Ah oui, ils étaient à la fois étonnés, à la fois hyper enthousiastes, parce qu'ils s'apercevaient que eux y arrivaient et les jeunes apportaient plein d'idées et plein d'astuces pour bien mémoriser.
Vous insistez beaucoup sur l'aspect affectif aussi sensible de ce travail de mémoire et sur la créativité aussi.
Oui,
hein.
Oui. Alors les ingrédients, voilà, clés. Il y a l'aspect il y a les perceptions et en fait ça c'est un peu les cinq dimensions. Et en plus de ces perceptions, il y a la partie émotionnelle qui forcément, enfin on le sait tous, hein, ça impacte notre mémoire. Et après dans la partie imagination, donc pour mémoriser, il faut être capable de se représenter dans son esprit les informations. Par exemple, j'aime bien donner l'exemple de la capitale de l'Australie, donc c'est Canberra. Si on imagine l'Australie, souvent les gens pensent à des kangourous. Alors, pas aux lémuriens, mais aux kangourous. Et donc ça, c'est un lien pour soi rationnel. Et après, Canberra, souvent on n'a pas forcément d'association.
Canberra, kangourou, ça se ressemble un peu, non?
Alors, ça peut se ressembler, mais il vaut mieux aller encore plus loin. Canberra.
Désolé, moi c'était ma petite méthode, mais bon, alors là.
On peut avoir par exemple une caméra. Ouais, c'est encore encore plus loufoque. Et là, si on imagine un kangourou avec une caméra à la main, et ben ça crée une histoire et on va se rappeler plus facilement de.
Et on a l'ensemble du mot. Là.
On a l'ensemble en fait. On a l'aller-retour.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'il faut s'autoriser en fait à réveiller cette flamme d'enfant.
C'est ça. Et ça ancre en fait les souvenirs. Mais et du coup, ça booste la mémoire.
Alors ça encode. Ça c'est la première phase. On est dans la partie encodage. Et donc dans cet encodage, on va garder l'information à plusieurs heures, à plusieurs jours en fonction de la puissance de l'encodage. Mais après, pour pouvoir s'en rappeler, évidemment, il faut consolider. Et donc là, consolider, c'est tout simplement répéter.
Ouais.
Alors, il n'y a pas de règle absolue. Souvent, on dit qu'il faut répéter au moins une heure après, un jour après, dans la semaine, etc. Mm-hmm. Et on espace au cours du temps.
Bon, et puis vous conseillez la micro-sieste, hein, oui. Les exercices d'assouplissement. Tout ça, c'est essentiel aussi pour justement favoriser une bonne mémoire.
Oui, alors la micro-sieste, c'est notamment pour l'attention.
Ouais.
On sait qu'il y a deux types d'attention. Vraiment, l'attention focalisée, donc l'attention classique, et l'autre attention qui est plutôt diffuse, qui est plutôt le rêve éveillé. Mm. Et les deux s'auto-alimentent, vraiment.
Eh bien, justement, tous ces conseils sont dans ce livre « La mémoire est un jeu, ce qu'il faut savoir pour tout savoir », c'est chez Premier Parallèle. Et puis votre premier ouvrage, Une mémoire infaillible, vient de paraître en poche. Et vous avez reçu d'ailleurs pour cet ouvrage le prix des lecteurs, Sébastien Martinez. Vous restez avec nous dans un instant. On accueille Nina Brockmann et Hélène Stockendal qui arrivent de Norvège pour nous parler des joies d'en bas, tous sur le sexe féminin. زمانك يا هادي جنس نانيت الزمانك يا هادي جنس نانيت وما صورت تصطير وارتقى صدنا وما صورت Azaman, c'était Imran.
La tête au carré. Le club.
Et la suite
sur
de.
Et
oui, sur France Inter, la suite de notre émission avec Les Joies d'en bas qui paraît chez Actes Sud, signée Nina Brockmann et Hélène Stockendal, auteurs donc de ce best-seller mondial, norvégiennes, toutes les deux étudiantes en médecine. Et déjà nos invités, d'ailleurs garçons masculins, qui ont décidé d'acheter votre ouvrage pour en savoir un petit peu plus également sur le sexe féminin. Parce que tout le monde s'y intéresse finalement, pas seulement les jeunes femmes. Nina Brockmann.
Yes, well, we wrote this book mostly for women.
Oui, à vrai dire, nous avons écrit ce livre surtout pour les femmes. Et nous avions écrit avec à l'esprit des jeunes femmes de 20 ans, 30 ans, mais en réalité, cela s'avère pertinent pour des jeunes et des moins jeunes. Il y a des gens de 80 ans qui nous envoient des courriels en disant « mais ça fait 70 ans qu'on aurait voulu lire votre livre ». Et il y a beaucoup d'hommes qui achètent notre livre pour en savoir plus sur les préoccupations de leurs femmes, épouses, filles, cousines, que sais-je encore. Ouais.
Hélène Stockendal, comment vous avez procédé au départ? Est-ce que vous avez fait un tour de la littérature scientifique et à ce moment-là, vous êtes aperçu que finalement, il y avait assez peu d'informations sur la question, ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage?
Well, it started with a big part of, you know, curiosity from both Nina and me.
Tout d'abord, Nina et moi, nous étions enseignantes en éducation sexuelle pour des jeunes, des adolescentes et pour des travailleuses du sexe. Et dans notre expérience d'enseignement, nous avons eu beaucoup de curiosité. Curiosité quant au manque d'informations dont les gens disposent sur le corps humain. Les informations dont les gens disposent est souvent déformé, il y a souvent des conceptions erronées des choses et nous, on voulait que les gens se connaissent, que les femmes se connaissent elles-mêmes parce qu'on se sent plus à l'aise dans son corps, on prend confiance en soi. Donc notre objectif c'était de, comme vous le dites, regarder la littérature scientifique pour voir les informations disponibles, en faire une sorte de synthèse, apporter notre contribution et donner cela à un public large parce que c'est vrai qu'il faut ouvrir cela à un public large, parce que comme Nina l'a sous-entendu, c'était un tabou tout de même.
Ouais, mais même en Norvège, c'était un tabou, parce qu'on a l'image ici en France d'un pays comme le vôtre, extrêmement libéré, très en avance sur les questions de nudité ou de sexualité, et il y avait aussi cette méconnaissance sur le sexe féminin. Nina Brockmann.
Yes, even in Norway.
Même en Norvège, mais oui.
We actually our first review in a Norwegian newspaper said that
notre première critique de notre livre disait que personne n'aurait besoin de contraception à la lecture de notre livre parce qu'on parle tant d'écoulement et de règles que personne ne voudrait en fait se lancer lorsqu'on est jeune fille dans la sexualité. Enfin bref. Donc il y a quand même beaucoup d'ouverture d'esprit du côté libéral de la sexualité en Norvège. Il y a du porno, il y a les réseaux sociaux, mais les préoccupations au quotidien, c'est ça qui ne fait pas l'objet d'une suffisante couverture médiatique. Alors bien sûr, on voit pas mal de sexe et de nudité, mais c'est pas la vraie vie et c'est pas ça qui correspond aux préoccupations des jeunes filles ou des femmes.
Alors évidemment, ce livre arrive aussi dans un contexte de libération de la parole très fort des femmes, évidemment, depuis quelques mois. Est-ce que ça participe aussi, selon vous, à cette écoute très nouvelle et à cette libération aussi autour des questions de sexualité féminine?
Yes, I do think our book has been published at a very.
C'est vrai que notre livre sort au bon moment. Une sorte de sérendipité, on pourrait dire. C'est vrai que les femmes prennent la parole, exigent de l'information, exigent de pouvoir en parler. Les choses changent dans la société et ça devient un phénomène mondial. Et c'est ainsi qu'on arrive à cela grâce aux réseaux sociaux, parce que les femmes, jusqu'à présent, n'ont pas pu accéder aux informations aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Facebook, Instagram, et on peut partager les informations de manière très pratique d'un pays à l'autre. C'est transfrontalier. Et ça, c'est une raison importante qui explique le succès de notre ouvrage. Je crois que notre livre s'inscrit dans ce phénomène et dans ce contexte. Les femmes veulent des informations scientifiques, elles veulent de la bonne science, compréhensible et juste, parce que la façon dont, dont on traite les questions des femmes, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi autour de cette table pour le dire, c'est que généralement, les propos que l'on tient sont des propos assez vulgaires. On voit ça dans les journaux de piètre qualité, alors qu'il faut quand même attaquer les choses de façon plus sérieuse.
Hélène Stockendal, alors évidemment, hein, le principe du livre, c'est de reprendre vraiment les fondamentaux sur le sexe féminin et toute la sexualité, à la fois la sexualité et puis la partie aussi santé et médecine. Justement, dans ce chapitre de la santé, vous insistez beaucoup sur le col de l'utérus. Ça, c'est vraiment des choses aussi que vous essayez de faire passer auprès des jeunes femmes en particulier.
Well, we are talking a lot about the cervix because the cervix is.
Oui, on met pas mal l'accent sur le col de l'utérus parce que c'est le siège de symptômes importants pour des pathologies de la femme. Par exemple, si vous avez des saignements pendant ou après un rapport sexuel dû à des hématomes sous la surface, pouvant émaner de maladies sexuellement transmissibles ou alors dû à des mutations cellulaires. Donc, c'est important que les femmes ne soient pas non pas préoccupées par leur col, mais sachent comment ça fonctionne pour comprendre les symptômes. Et ça permet évidemment d'être en lien avec son partenaire. Et c'est important d'en savoir davantage sur le col de l'utérus, oui.
Alors vous nous disiez tout à l'heure, finalement, un des organes les moins connus, c'est le clitoris, c'est ça ?
Yes, the clitoris is, you know, people know
en effet,
about the clitoris.
On a entendu parler du clitoris, on pense que c'est un tout petit bouton dans la partie antérieure de la vulve, mais souvent on ignore que le clitoris est beaucoup plus important par la taille. Ce que l'on voit à l'extérieur, ce n'est que la pointe de l'iceberg, si je puis dire. À l'intérieur, il y a un organe avec des tissus érectiles et ces tissus ont la même composition que ceux du pénis. L'intérieur du clitoris, c'est un petit peu comme le pénis. Et les femmes ont des érections en interne. Et l'organe à l'intérieur peut faire l'objet d'une érection lorsqu'il y a stimulation sexuelle. Et le clitoris est un organe qui entoure tous les organes sexuels externes de la femme. Et par exemple, lorsque l'on parle d'orgasmes vaginaux et qu'on fait une comparaison par rapport à l'orgasme clitoridien, ça n'a pas de sens parce que le clitoridien, lui, occupe l'ensemble du territoire des parties génitales de la femme, si je puis dire.
Nina Brockmann qui veut ajouter des informations là-dessus.
And what is very interesting is that we present this now as the, as
nous présentons cela comme étant une connaissance nouvelle. Mais hier, j'ai vu un livre chez un bouquiniste, Maladie des femmes, 1856. Donc j'ai feuilleté ce livre avec beaucoup d'intérêt et il y avait une description du clitoris. Description identique à celle que vous venez d'entendre et ça date d'il y a 150 ans. Donc la connaissance que nous donnons dans notre ouvrage n'est pas nouvelle, c'est connu dans le domaine de la science et de la médecine depuis très longtemps. Et cependant, les femmes sont ignorantes, les hommes sont ignorants, on en parle comme si on ne connaissait rien et c'est ça que l'on veut changer, nous, avec notre livre. On prend des connaissances scientifiques anciennes, on les met au goût du jour et on les rend disponibles au plus grand nombre. C'est ça notre objectif.
Alors, au sujet du clitoris, on va écouter justement un extrait de l'émission Le Débat de Midi sur France Inter. C'était en 2012, en juillet 2012. Jean-Claude Picard, qui est sexologue et auteur de la fabuleuse histoire du clitoris, nous en donnait quelques éléments également.
Alors, quand j'ai fait tout mon travail de recherche pour le livre La fabuleuse histoire du clitoris, je me suis aperçu que c'est pas depuis des siècles que c'est très récent.
Hein. Le clitoris, le tabou ou le
tabou
le fait...
du clitoris. Le clitoris était connu et reconnu jusque quasiment en 1900. Hein. Et l'obscurantisme clitoridien a démarré dans les années 1920-1930.
Avec ce que vous appelez la morale bourgeoise d'ailleurs dans votre livre.
Oui,
et puis alors, Freud
alors,
qui...
Effectivement, il y a des convergences de plusieurs synergies, quoi. On ne va pas tout détailler maintenant, mais effectivement, Freud est un de ces éléments forts, mais le clitoris était très connu en 1900, et il a commencé à décliner à partir de 1920, après les écrits de Freud, hein, 1905, les écrits de Freud, il a commencé à décliner. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le point le plus bas de la connaissance du clitoris, le point le plus haut de l'obscurantisme clitoridien, c'est les années 60. Hein. C'est-à-dire que c'est tout proche de nous.
Voilà, ce terme d'obscurantisme clitoridien, Hélène Stockendal, c'est quand même intéressant aussi hein, comme notion, parce qu'on voit vraiment ces tabous qui se sont installés pendant si longtemps sur ces aspects de sexualité féminine.
Yeah, it is. I mean, it seems like female sexuality is always tried to.
Oui,
people are trying
si
to keep female sexuality.
On essayait de réprimer la sexualité de la femme, et on aborde ça dans un autre sujet de l'hymen. S'agissant de l'hymen, les femmes de toute culture, de tous horizons et de tout temps ont été réprimées parce qu'elles ont peur de saigner ou de ne pas saigner lors de leur nuit de noces. Là aussi, s'agissant de l'hymen, les informations remontent au 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce sont des informations scientifiques tout à fait justes qui existent, mais malgré tout, encore aujourd'hui, on s'intéresse du point de vue médical à la virginité de femmes alors qu'on ne fait pas les choses comme il le faudrait d'un point de vue anatomique ou médical. Et donc l'hymen, c'est un autre sujet d'intérêt.
Ouais, Nina Brockmann, on découvre d'ailleurs qu'on peut se faire opérer pour avoir un hymen, c'est ça ? Et faire croire qu'on est vierge donc.
It's called revirgination surgery.
Cette chirurgie de reconstruction, l'hyménoplastie, ça consiste à resserrer l'ouverture du vagin pour s'assurer que si l'on y fait pénétrer un pénis, eh bien ce tissu va se déchirer. C'est une chirurgie assez horrible. Ça me rappelle en quelque sorte de la mutilation génitale des filles. Là, on fait de l'infibulation, on coud de telle sorte qu'on ne peut permettre que l'écoulement de l'urine et des règles. Mais le message de tout cela, c'est que tout cela, ça repose sur des mythes et pas des faits scientifiques. Parce que si l'on regarde l'hymen a la forme d'un croissant, donc une demi-lune en quelque sorte, ou alors la forme d'un élastique. Donc il y a un trou au milieu, si vous voulez. Et l'hymen est également un tissu élastique. Donc chez la plupart des femmes, on peut utiliser des tampons, avoir des rapports sexuels sans pour autant endommager l'hymen. Moins de la moitié des femmes saignent lors de leur premier rapport. Donc un saignement lors du premier rapport, ça ne signifie rien. Et on ne peut pas regarder l'hymen par la suite pour déterminer si la femme a eu ou non un rapport sexuel. Et pourtant, on le fait, c'est absurde.
Hélène Stockendal, pour terminer, ce qui est important, parce qu'évidemment, ce livre est extrêmement précieux, 400 pages donc pour faire le tour de la sexualité féminine. Ce qui est important, c'est l'éducation aujourd'hui auprès des jeunes filles, commencer le plus tôt possible pour parler sans tabou de ces questions-là.
Yes, we definitely feel that education is the way to.
L'éducation constitue le moyen de donner du pouvoir aux femmes et ça va permettre aux femmes de fixer elles-mêmes leurs limites s'agissant de leur sexualité, de leur vie. L'éducation est fondamentale. C'est ainsi que les femmes pourront opérer les choix leur permettant d'accéder au bien-être. Aujourd'hui, les femmes font des choix de sexualité et de santé sexuelle sans pour autant avoir les connaissances fondamentales basique nécessaire pour opérer ces choix. Il y a beaucoup de gens qui font des choix à partir de craintes, d'incompréhension, manque d'informations. Il y a une image de sexualité sale et ça ne va pas du tout. Il faut que les femmes puissent elles-mêmes prendre leurs propres décisions à propos de leur sexualité.
En tout cas, bravo pour cet ouvrage et puis bravo pour ce qui vous arrive puisque vous êtes emporté dans un tourbillon de succès aujourd'hui et vous traversez la planète pour aller discuter de ces questions et c'est extrêmement important. Vous faites œuvre utile avec les joies d'en bas qui paraît chez Actes Sud avec des dessins, parce qu'évidemment, dans la forme, vous avez aussi beaucoup travaillé pour que le sujet soit agréable et accessible. Merci de votre venue, mais vous pouvez rester avec nous. Merci. On continue le club dans un instant. Merci à Xavier Combes pour la traduction. Raphaël Chevrier, vous êtes notre dernier invité aujourd'hui en tant que docteur en physique nucléaire et aujourd'hui ingénieur chez Arianespace. Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, je suis officiellement donc l'assistant exécutif du PDG, donc du président exécutif.
Ah pardon, oh là là.
Voilà, donc c'est une sorte de plume du président exécutif d'Ariane Espace.
Et vous publiez ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas à la librairie Vuibert. L'idée de ce livre étant de quoi, de raconter l'envers du décor des grands, de quelques-unes des grandes découvertes.
Hein. Oui, c'est un peu ça. Enfin, pendant toute ma formation, donc vous l'avez rappelé, moi je suis à la fois issu de la sphère d'abord scientifique, académique, et puis ensuite j'ai intégré le monde de l'entreprise, d'abord auprès de start-up et de PME qui étaient lancées dans des travaux de recherche et développement pour développer le produit révolutionnaire. Et pendant tout ce parcours, je me suis un petit peu interrogé sur les grands mythes qu'on nous raconte, l'envers du décor, comme vous l'avez dit, d'Einstein à Steve Jobs, et finalement, quelle était la part de ce que tous ces grands hommes ne maîtrisaient pas, quelle est la part d'inconnu dans les grandes avancées du monde, et est-ce que en fait, le monde aurait pu évoluer d'une manière un peu différente au gré de petits hasards. Voilà, c'est les grandes questions.
Et qui ont donné de grandes découvertes pour la plupart. En tout cas, ce sont évidemment les exemples que vous avez choisis autour de ce qu'on appelle la serendipity, c'est ça?
La serendipity, vous faites bien de le dire en anglais parce que le mot français est souvent un peu obscur. Alors, il est apparu au milieu du XVIIIe siècle par l'homme politique et écrivain Horace Walpole, mais il a intégré les dictionnaires français qu'au début des années 2010, donc voilà, très très récemment.
Et qui dit quoi alors finalement? Qu'est-ce que ça exprime?
Finalement, la définition, donc son sens a un petit peu évolué, s'est précisé avec le temps, et aujourd'hui, ça veut dire trouver la preuve de ses idées de manière inattendue, ou alors, au contraire, trouver de nouvelles relations scientifiques, de nouveaux objets, mais sans les avoir cherchés.
Ouais, alors vous avez pris des exemples, vous commencez d'ailleurs au XVIIe siècle, avec la découverte des bactéries. Ouais, oui. C'est ça, c'est le tout premier exemple, avec Antonin von Leeuwenhoek, comment on le prononce?
Leeuwenhoek,
c'est ça. Qui a découvert plein de choses d'ailleurs, parce que les bactéries, les spermatozoïdes aussi, d'ailleurs.
Exactement, exactement.
Il appelait ça les animalcules, lui. C'était sa découverte à une époque où l'optique aussi avait beaucoup évolué.
Voilà.
Dans quelles conditions il découvre les bactéries alors?
Bah alors lui, c'est un personnage vraiment formidable parce qu'il a aucune éducation particulière. D'ailleurs, il ne maîtrise pas le latin qui à l'époque, c'est d'ailleurs ses détracteurs s'en sont servis pour jeter un petit peu le discrédit sur ses découvertes. Ouais. D'autant qu'il gardait un petit peu secret. C'est secret de fabrication de lentilles pour observer un petit peu tout ce qui lui passait sous la main. Et la découverte des bactéries, en fait, elle est motivée par quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il était totalement... il voulait savoir quelle était l'origine du goût. Il voulait par exemple savoir si pourquoi les Néerlandais étaient fascinés, adoraient le hareng cru plutôt que fumé. Et donc là, de manière anatomique, il regarde la langue. Il regarde la langue et il essaie de comprendre quelle est l'origine du goût. Et surtout, il est aussi passionné par la question de savoir pourquoi le poivre pique sur la langue. Et donc là, il passe tout un tas de poivre sous la lentille de ses microscopes. Et ensuite, il passe sur. Il veut diluer le poivre dans de l'eau, donc dans de l'eau de pluie, l'eau d'un lac qui est.
Il expérimente absolument tout.
Il expérimente absolument tout.
Tout y passe.
Et en regardant l'eau de pluie, là, il voit des espèces de petits animaux. Il appelle ça les animaux. C'est les plus petits animaux qu'il a jamais vus. Il les rapporte dans ses lettres et voilà comment il découvre les bactéries.
Voilà, les cellules étaient découvertes donc grâce à lui. Alors, dans les exemples que vous citez, évidemment pour raccrocher avec le sujet précédent sur les joies d'en bas et le sexe féminin, il y a du côté de la sexualité masculine, évidemment, un événement dont on a parlé il n'y a pas longtemps, parce que c'est le 20e anniversaire de la découverte du Viagra, donc c'était en 1998, arrivé dans les pharmacies, cette petite pilule bleue qui allait absolument tout bouleverser quand même, ça a été un choc énorme.
Exactement, mais alors moi c'est pour rebondir un petit peu sur les échanges qu'il y a eu précédemment, en écrivant ce chapitre, je me suis aussi intéressé aux recherches qui ont été faites sur la sexualité, et la science étant à majorité, à dominante masculine. Eh ben, le Viagra n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. L'imagination humaine est absolument sans limite, et les hommes ont recherché des moyens de pouvoir améliorer leur virilité. Alors voilà, je cite dans le bouquin des petits exemples, mais la chaire de médecine expérimentale du Collège de France lui-même en 1889. avait eu l'idée de s'injecter des extraits de testicules de chiens et de cochons pour pouvoir améliorer sa virilité.
Ouais. Et alors, les résultats ont été
assez
décevants.
Les résultats ont été assez décevants et heureusement, ça n'a pas convaincu la sphère scientifique de l'époque. Il y a aussi un célèbre, à l'époque, docteur américain qui propose sur le marché une ceinture électrique à porter la nuit qui envoie des petites décharges électriques dans le bas de la ceinture. Ouais. Pour pouvoir améliorer effectivement les performances sexuelles.
Ouais. Bon, le Viagra aurait été plus efficace quand même. Hein. On l'aurait fait en 1998.
Mais a été efficace.
Ouais. Et la découverte s'est faite de façon totalement fortuite. Hein. Vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure rapidement.
Voilà,
mais c'est
voilà
ça,
tout
hein.
à fait. C'est un chercheur britannique, Ian Osterloh, qui est engagé dans une recherche assez ambitieuse dans des laboratoires Pfizer pour trouver un remède contre l'hypertension et les angines de poitrine en particulier. Il commence une étude clinique au Pays de Galles et les résultats, alors les patients, lui, les cobayes, lui rapportent des effets secondaires assez classiques, des maux de ventre, des migraines.
Mais
et certains osent rapporter des effets secondaires un peu plus osés, c'est-à-dire des érections intempestives.
Voilà. Et donc, alors, ça a donné lieu ensuite aux recherches.
Hein. Oui, mais alors sur le coup, ils savaient pas trop quoi penser parce que on administrait de manière assez régulière des doses aux cobayes. Ils savaient pas combien de temps le médicament pouvait agir, donc ils se sont demandé. Bon, on savait pas trop quoi en penser parce que qui voudrait prendre une pilule le mercredi pour pouvoir avoir une érection le samedi. Je sais qu'il y a des couples qui peuvent programmer l'acte sexuel, mais à ce point-là, c'est vrai. Un peu extrême.
Absolument. Plein d'autres exemples pour évoquer la sérendipité, la pénicilline, le LSD, le pulsar, donc le four à micro-ondes aussi. Hein, vous passez en revue tous ces sujets et puis vous développez évidemment ce thème de la liberté de rechercher, hein, justement, sans avoir forcément de but et d'innovation. Au bout. Ça s'appelle Ça alors, l'histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas, Raphaël Chevrier, et c'est publié à la librairie Vuibert. Merci à tous les quatre. Bon retour en Norvège pour vous, mesdames.
Merci
d'être venus cet après-midi dans le club. Merci à Étienne Bertin qui était aujourd'hui à la réalisation et Julien Dumont qui assurait la technique. Dans un instant, ce sera Affaires sensibles, dernier volet de la semaine consacré à l'humour avec une fiction de Sharif Gattas. Fabrice Drouel recevra Perrine Desproges et le réalisateur Yves Rioux pour parler justement des projets commémorer les 30 ans de sa disparition.